Ok, on continue notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Ce soir, on est dans la discipline de l'adoration. On avait regardé un petit peu la semaine dernière, on avait introduit le sujet. On avait vu qu'il y avait le premier point qu'on avait regardé, c'est que l'adoration, c'est un devoir, mais ça peut être un délice aussi. On avait défini qu'est-ce que c'était l'adoration. On avait regardé que Jésus lui-même nous parle de notre devoir d'adorer le Seigneur Jésus. Et on avait vu qu'il y a différentes façons qu'on peut adorer Dieu. On peut le faire à travers sa création. On peut le faire à travers la parole. Quand on lit la parole, quand on l'écoute, quand on l'étudie, qu'on la mémorise, qu'on la médite, on peut en arriver à l'adoration. Et on peut aussi l'adorer à travers la personne de Jésus-Christ qu'on découvre. Plus on étudie la parole, plus on la lit attentivement en prière, plus le Seigneur Jésus-Christ devient pour nous une réalité et ça nous amène à l'adoration. Et bien entendu, ça se fait aussi à travers les hymnes et les cantiques spirituels. On le sait, le dimanche, il n'y a rien de plus agréable que quand on est tout ensemble, de chanter des beaux chants, et que tout le monde est à l'unisson. C'est vrai que, s'il était mentionné, nos cœurs sont à l'unisson. Je ne sais pas si physiquement ça peut se vérifier, mais il semble qu'il y en a qui l'affirment. Et aussi, ça peut se faire à travers l'écoute des sermons. Parce que normalement, un sermon, c'est Dieu qui parle à travers un serviteur pour donner un message bien particulier à un groupe bien particulier. Des fois, on entend des personnes qui disent « Ah, un tel, il devrait être là à soi, parce que me semble que ça sera bon pour lui. » On a souvent entendu ce genre de raisonnement-là. Le Seigneur, c'est pas ceux-là qui veut parler à soi, c'est à vous autres. Alors, si il y a un message spécial, le message spécial, il s'adresse à vous en particulier comme individu. Alors, on était rendu au deuxième point, l'adoration, ses exigences. Autrement dit, est-ce que Dieu, pour qu'on puisse lui adresser notre adoration, est-ce qu'il y a des choses au préalable qu'on se doit d'avoir? Je pense que c'est assez évident. Si on a le moindrement de connaissances théologiques, on sait qu'il faut être né de nouveau. Dans Jean, chapitre 4, versets 21 à 24, on lit, « Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, il y a deux choses qui sont mentionnées dans les exigences ou les prérequis pour adorer le Seigneur. On parle de l'adorer en esprit et l'adorer en vérité. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas régénéré, il n'adore pas vraiment. Alors, le premier prérequis, c'est celui d'être habité par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas être habité par le Saint-Esprit à moins d'avoir été régénéré, à moins d'avoir connu la personne de Christ, à moins d'avoir reçu la grâce de Dieu. Alors, on lit dans Jean 14, versets 16 et 17. « Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit des vérités, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Des fois, on s'arrête, il y a des termes de théologie parfois, comme ça, qu'à force de les entendre, ça devient, on dirait qu'on s'habitue à ça, puis c'est comme s'il n'y avait rien là. Dieu dit que le Saint-Esprit, qui a les mêmes attributs que le Père, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, et d'une façon infinie, vient habiter en nous. Si on se rendrait vraiment compte, là, on serait en adoration, là, on tomberait sur nos faces. Mais des fois, on vient habitué avec le vocabulaire et ça nous, on dirait que ça nous remue plus. Mais ça devrait nous remuer même énormément. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors vraiment, le premier prérequis, c'est l'adoration par le Saint-Esprit. Et ça nous dit qu'on ne peut pas adorer n'importe quelle façon, il faut adorer selon la vérité. Quand on regarde, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits aujourd'hui sur la fausse adoration, sur des manières d'adorer qui ne correspondent pas au... dans le milieu réformé baptiste, on a la confession de foi 1689, et ça, c'est une très, très grande protection contre toutes sortes de formes d'adoration qui sont fausses, qui n'ont pas de fondement biblique. Autrement dit, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une assemblée quand on se rassemble le dimanche. Il faut que la parole de Dieu soit centrale. Et aujourd'hui, je peux vous dire par expérience que beaucoup d'églises, en Amérique du Nord, en Europe, je ne suis pas très au courant, mais en Amérique du Nord, où ce n'est plus la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu qui est centrale lors d'un culte. C'est plutôt toutes sortes de manifestations qu'on dit de l'esprit, ça c'est à voir. Après ça, et plein d'autres choses, de la musique du monde qui est mélangée avec un culte chrétien. Autrement dit, on s'éloigne de l'adoration en vérité. L'adoration en vérité, ça veut dire que ce qu'on fait dans un culte le dimanche, ça devrait tout trouver une justification et des exemples dans la Bible. La prière, le chant, l'adoration, l'écoute de la parole, et toutes les choses qu'on fait, là, le repas du Seigneur. Mais il y a beaucoup d'églises, je le dis, et ça me fait de la peine de le dire, qu'il y a beaucoup d'églises qui s'éloignent tranquillement, où on est rendu, qu'il y a beaucoup d'églises que les cultes d'adoration sont devenus des genres de spectacles, des shows. Et ça, quand tu t'en vas dans cette direction-là, t'es carrément plus dans l'adoration selon la vérité. Alors, quelque part, il faut faire très attention parce qu'on est tous portés à s'éloigner des Écritures et on a besoin de toujours revenir et vérifier si tout ce qu'on fait est conforme aux Écritures et si on y trouve une garantie dans les Écritures. Autrement dit, s'il y a des endroits dans les Écritures qui nous justifient de faire ou de ne pas faire telle et telle chose. Notre confession de foi, Baptiste de Londres, au chapitre 22, au paragraphe 1, nous dit « Mais quand à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque manière non prescrite dans les Écritures. » Ça, ce petit paragraphe-là, là, chapitre 22, paragraphe 1, si on comprenait vraiment ce que ça veut dire, il faut vraiment s'arrêter et d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Autrement dit, il nous dit qu'on ne peut pas adorer n'importe comment. Il faut que notre adoration soit basée sur ce que les Écritures nous commandent. Si les Écritures ne nous le commandent pas, on ne devrait pas le faire. Et de plus en plus, dans de plus en plus de milieux dits chrétiens, à travers l'Amérique du Nord et plein d'autres endroits, on est de plus en plus, on s'en va dans cette direction-là. Il ne faut pas penser que ces choses-là n'ont pas d'influence sur nous et que ça n'a pas un certain attrait. Parce que c'est ce que la chair veut. Pas pour rien que si on voudrait, disons, on est une trentaine ici. Pensez-vous que si je voulais, là, vraiment, là, et si vous seriez d'accord, disons, je sais que ça se peut pas, là, mais disons juste pour les besoins de la cause, que si on voudrait que l'Église se remplisse plein à craquer, pensez-vous qu'on serait capable de le faire en dedans de deux? Moi, je suis convaincu qu'on pourrait. C'est juste que tu changes le style. C'est juste que tu mets de la musique, des tambours, de la trompette, des shows, des chants. Tu fais du culte un show. Et ça marche. Parce qu'aux États-Unis, il y a plein de grosses églises, des énormes églises. C'est comme ça qu'ils ont construit. Ils n'ont pas le souci d'avoir des âmes véritablement régénérées et de les former et d'en faire des disciples, comme les Écritures nous le demandent. Ils veulent des têtes. Quand on veut juste des têtes, là, c'est pas compliqué, faire grandir une église. C'est vraiment pas compliqué. Dans les Écritures, dans le milieu réformé baptiste, dans les milieux des réformés baptistes, ce qu'on appelle le principe régulateur. Le principe régulateur, c'est assez simple. C'est qu'on ne peut pas faire quelque chose dans un culte qui n'est pas garanti par les Saintes Écritures. Comme la prédication, Dieu, on peut trouver un paquet de passages où, qui nous démontrent que Dieu veut que ce soit ça qui se passe dans une assemblée. Les chants, il dit chanter des cantiques. Mais encore là, aujourd'hui, des cantiques spirituels, il faut que tu définisses un petit peu quel genre de musique plaît au Seigneur, quel genre de musique qui peut être plus du monde que d'autres choses. En tout cas, ce qu'on appelle le principe régulateur a été donné par le Seigneur pour régler. C'est pas pour rien qu'on l'appelle régulateur, c'est parce que c'est là pour nous aider à déterminer qu'est-ce qu'il doit avoir dans un culte et qu'est-ce qu'il ne doit pas avoir dans un culte. Alors, le principe régulateur nous a été donné par le Seigneur pour régler la manière dont il doit être adoré. Deutéronome, chapitre 12, verset 32. « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Comme une église, disons, prenons un exemple. Moi, je l'ai vécu, ça. Ce n'est pas une affaire que je vous parle à travers mon chapeau. Là. Je l'ai vécu dans un culte qui a duré une heure où il n'y a pas eu de parole de Dieu du tout. Je me souviens, j'étais à Sherbrooke dans le temps, puis c'était une petite église maison. Et le pasteur, à la fin de la soirée, et il m'avait appelé chez nous, il avait dit, « Marcel, qu'est-ce que tu en penses du culte qu'il y a eu ce soir? » Ben j'ai dit, « Si vous faites ça une autre fois, là, vous ne me reverrez plus jamais. » Puis il n'avait appelé d'autres aussi. C'est parce que le culte ce soir-là avait été uniquement du chassage de démons. Ça avait été toutes sortes d'affaires, du parlage en langue, de plein de choses qui se passaient dans l'assemblée. Et il y a même la Bible n'a même pas été ouverte une seule fois. Et ça, vous pensez que c'est rare, hein? Non, c'est pas si rare que ça. Pas si rare que ça. Alors, quand il dit, le Seigneur, il dit, vous mettrez en pratique les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien, vous ne retrancherez rien, t'es mieux d'oublier. Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont en haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Nombre, chapitre 3, verset 4. Or, Nadab, bien pour montrer la sévérité du Seigneur face à la fausse adoration. Or, Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils offrirent un feu étranger devant l'Éternel au désert de Sinaï. Ils n'avaient point d'enfants, mais Éléazar et Ithamar exercèrent la sacrificature en présence d'Aaron, leur père. Quand on parle d'offrir un feu étranger, c'est d'offrir une adoration qui n'est pas encadré par les Saintes Écritures. La réaction de Dieu est simple. Il les a tués. On ne rit pas avec ça, là. Alors, notre adoration, ça devrait toujours, bien entendu, d'être une expression d'amour et de joie. Marc 12, verset 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Alors, la première, quand le Seigneur a dit, il avait demandé c'était quoi le premier. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est beaucoup, ça, là. Aimer quelqu'un de tout son cœur, là, c'est d'avoir aucune réserve, c'est comme tu dis, t'es corps et âme. Aimer quelqu'un, c'est beaucoup. Après ça, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est énorme ce que le Seigneur nous demande. C'est lui-même qui nous demande d'adorer. D'adorer avec amour et adorer avec joie aussi. Psaume 37, verset 4. Et prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur, dans la version Sterval. Dans la version Louis II, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire que quand tu viens au culte, là, tu devrais trouver que c'est la plus belle expérience que tu peux pas vivre de ta semaine. Tu devrais rayonner de joie. Les délices, là, on sait ce que c'est. Dans le monde physique, là, quand on dit c'est délicieux, c'est bon, mais il y a quelque chose d'équivalent dans le domaine spirituel. Faire de l'Éternel, c'est l'Éternel qui devient tes délices. Tu trouves en lui ta joie, tu trouves en lui ton plaisir, tu trouves en lui tout ce qui est agréable. Est-ce qu'on est toujours dans cette attitude-là quand on vit au culte? Permettez-moi d'en douter. Parce que par expérience, je sais que je n'ai pas toujours été dans des cultes dans cet état-là. Et je sais que ceux qui sont là ne sont pas toujours dans cet état-là non plus. Mais ça ne veut pas dire que ça te justifie d'être là, dans cet état-là. Parce que la Bible est claire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et dit, fais le désir de ton délice, ça donnera ce que ton cœur désire. Ben non, j'aime bien la version Sterval. Et prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. C'est dit autrement, mais ça veut dire la même chose. Donc, il existe deux types d'adoration. On le sait, il y a l'adoration publique. Ce soir, on est en train d'adorer publiquement. On le fait, les portes sont ouvertes, les gens peuvent venir, entrer. Ça. Et il y a aussi l'adoration privée. L'adoration privée, ça se perd un petit peu de nos jours. Ça comprend quoi, l'adoration privée? Ça comprend l'adoration individuelle. Donc, est-ce que tous les chrétiens de cette Église font un culte au Seigneur personnel à tous les jours? Qui comprend prier? Qui comprend les rapports avec les Saintes Écritures? Qui comprend plein de choses encore? Méditation. Est-ce qu'on réserve un temps de qualité au Seigneur? Est-ce qu'on se discipline à le faire? Parce que si on ne le fait pas, là, on se prive nous-mêmes d'une source de joie et de délices. C'est ça qu'on fait. Puis on aime mieux s'en aller dans les affaires du monde parce qu'on trouve plus de satisfaction là qu'en Jésus-Christ, qu'en Dieu. Quand on y pense comme faut, là, c'est scandaleux. Donc, l'adoration aussi, il y a une autre sorte, et celle qu'on appelle en famille. Quand on est jeune, quand on a une jeune famille, puis qu'on a des enfants, ben on peut rassembler les enfants autour de la table avec nous, faire un culte de famille. Ça aussi, ça se perd, parce que je me souviens d'avoir entendu un sermon de Pascal Deneau là-dessus, parce que lui, il le fait depuis des années avec ses enfants. Et il y a beaucoup de monde qui, dans son église, sont intéressés à en faire, mais ils ne savent pas comment faire. Ça s'est perdu, ça s'est presque perdu, ça se fait presque plus, ça se fait encore, mais beaucoup moins qu'avant. Ça devrait se faire, parce que le Seigneur, quelle est la phrase, le verset que le Seigneur, que Dieu voulait que tous les Juifs connaissent par cœur, le schéma qu'on appelle. Et le schéma, ça voulait dire, enseigne tes enfants tous les jours, c'est ça que ça voulait dire. Donc, l'adoration individuelle et en famille qui devrait se faire tous les jours et qui se fait de moins en moins, ça se perd. Alors, si on n'est pas fort spirituellement, ce n'est pas la faute à Dieu. Il a tout mis à notre disposition pour qu'on soit fort. C'est nous qui s'éloignons. Luc 5, versets 15 et 16. Et sa réputation se répandait de plus en plus, et une foule de gens s'assemblait pour l'entendre et pour être guéris par lui. de leur maladie. Mais ils se tenaient retirés dans les déserts et ils priaient. Imaginez la personne de Jésus-Christ qui se retirait pour prier. Si Jésus lui-même considérait que c'était quelque chose à pratiquer dans sa vie, terrestre, la prière, imaginez-vous nous. Apocalypse 22, versets 8 et 9. « Et moi, Jean, je suis celui qui a entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » C'est Dieu qu'on se doit d'adorer. On pense qu'on le sait, c'est quoi? On le sait peut-être, jusqu'à un certain point, mais comment ça qu'on ne le fait pas? C'est ça la grande question. Si on le sait, c'est quoi? Puis on sait qu'on se devrait de le faire, comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que quand on se le fait rappeler, que dès le lendemain, on ne se réinstalle pas dans nos bonnes habitudes? Se poser la question, c'est connaître l'état de notre âme, hein? Éphésiens, chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'aigrissez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. » C'est un devoir pour un père. C'est lui qui est le chef de la famille. C'est lui qui se doit d'installer ça dans sa famille. Je préparais un couple pour le mariage récemment, puis j'ai vraiment insisté auprès d'eux. N'oubliez pas ça si vous voulez que votre mariage soit votre réussite. Faites votre culte personnel tous les deux, mais faites un culte ensemble, vous avez un enfant, puis si vous en avez un autre, habituez-vous à en faire un, et c'est le devoir du chef de la famille. C'est lui, le maître, selon les Écritures, le maître de la maison, et c'est lui qui se devrait d'être responsable de ça. Si quelqu'un ne le fait pas, il désobéit à Dieu, c'est un péché. Proverbe 1, versets 8 et 9. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » L'adoration individuelle et familiale quotidienne est nécessaire pour préparer celle qui se fera le dimanche dans l'église locale. Est-ce que vous croyez ça? L'adoration individuelle et familiale, c'est une préparation au culte du dimanche. Fait que si vous n'avez pas fait de la semaine, ni individuellement, ni en couple, vous n'êtes pas préparé pour le culte du dimanche. Vous allez dire, t'exagères. OK, on va regarder certains écrits d'écrits de grands chrétiens qui ont écrit sur ce sujet-là. Matthew Henry, tous ceux qui sont anglophones, ou qui ont déjà étudié un petit peu en anglais, Matthew Henry, c'est un des commentateurs bibliques les plus connus de tout le monde anglais. C'est pas un deux de pique, là. Tout le monde l'utilise encore 400 ans après. Ça, là, écrivez un commentaire, si dans le bout de 400 ans, on vous utilise encore, on mentionnera votre nom. Alors, le pasteur puritain Matthew Henry rappelle qu'assister à tous les cultes du dimanche ne nous exempte pas de notre devoir d'adorer individuellement et en famille. Il dit, le culte public ne vous dispensera pas du culte secret. Autrement dit, c'est pas parce que tu vis un culte dimanche que ça t'exempte de faire un culte individuel et familial chez vous dans la semaine à tous les jours. Maintenant, il y a un pasteur qui est baptiste, qui vit aujourd'hui, qui s'appelle Geoffrey Thomas. Il est le pasteur senior de Alfred Place Baptist Church dans le pays de Galles à Aberystwyth. Il est professeur de théologie systématique au Puritan Reformed Theological Seminary et il est un éditeur de Banner of Truth, la bannière de la vérité. Voici ce que lui dit. Il est impossible que ceux qui négligent un culte secret puissent connaître la communion avec Dieu dans les services publics le jour du Seigneur. Alors, nous minimisons notre joie lorsque nous négligeons notre adoration quotidienne privée, individuelle et familiale. Donc, on parle d'adoration privée, on parle d'adoration publique en Église. Hébreux, chapitre 10, verset 25. « N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est notre devoir de nous encourager les uns les autres à ne pas manquer notre culte le dimanche. Comment ça se fait qu'à chaque dimanche, je remarque toujours des vents vides? Pour nommer personne, les gens s'assurent toujours à la même place. J'arrive le dimanche, je sais qui n'est pas là. Je pourrais vous le dire, là. Il y a un tel, et pas un tel, un tel, un tel, un tel. Des fois, les personnes ont des vraies raisons, des bonnes raisons. Ils sont malades ou quelque chose. Mais je peux vous dire, par expérience aussi, qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à leur culte, puis ils n'ont pas des bonnes raisons. Ils vont à pêche, ils vont au quai, ils vont faire un déménagement, ils vont peinturer, ils vont travailler dans leur maison, ils vont faire plein de choses, ils vont tondre le gazon, ça ne lui tente pas, ils vont aller jouer au hockey. On est rendu qu'on prend un tel comportement tellement à la légère qu'on ne se rend même plus compte qu'on est à l'encontre d'un commandement de Dieu. La loi morale, le décalogue, nous commande qu'un jour sur sept doit lui être consacré. Quand tu prends t'es un chrétien et que les gens te voient travailler le dimanche, t'es pas bébé un bon témoignage, pas fort dans l'affaire. T'es pas en train de dire au gars, pour moi, le Seigneur est très important. Garde ce que je fais. Tu tombes ton gazon, tu vas jouer au quai, tu vas à la pêche. Des fois, je discute de ça avec ma femme. Je dis, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est de la rébellion. Ou si c'est un mélange des deux, ou les deux. Moi, je pense que c'est les deux. Alors, l'adoration collective publique en église locale, je l'avais déjà mentionné. J'ai appris ça sur un cours d'adoration quand je suis allé une fois à Saint-Jérôme. Puis c'est vrai quand tu te mets à réfléchir. L'adoration collective publique en église locale est la plus haute forme d'adoration qu'un chrétien peut offrir au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est des frères et des sœurs qui élèvent nos esprits simultanément vers le Seigneur. C'est une forme d'adoration collective, c'est plus fort qu'individuel. C'est toute l'assemblée qui élève leur cœur. Tu sais, quand on parle de psaume 100, le bon vieux psaume 100 qui nous dit « élever, chanter, sauter d'allégresse ». OK. Alors, c'est celle, l'adoration public en Église, qui révèle notre relation comme individu à l'ensemble des autres croyants. Alors, l'Église, bien entendu, comme corps du Christ. Quand on dit qu'on est en Église, les Écritures nous apprennent que comme Église, on est le corps de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14. « Car comme le corps est un, quoiqu'il y ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoi qu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Et il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. » Les Écritures nous parlent aussi de l'Église locale comme maison de Dieu, un temple saint. Éphésiens, chapitre 2, verset 19 à 22. « Et vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. » L'autre jour, il y a quelqu'un qui posait une question. Qu'est-ce que c'est la pierre angulaire? Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tout est construit sur lui. Nous sommes construits sur lui. Nous sommes des pierres, mais lui, il a la pierre de coin, la pierre la plus importante. En qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. La maison de Dieu, ce n'est pas une bâtisse. La maison de Dieu, c'est l'ensemble des croyants qui sont rassemblés en même temps. Ça, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui, on terminera la semaine prochaine cette leçon-là.